Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantou-Sperber. Peut-on rester puissant en étant juste et bon? Les leçons de Machiavel. Comment exercer le pouvoir? C'est une question persistante posée depuis que la puissance des gouvernants dépend de la faveur qu'ils peuvent se gagner auprès de leur peuple et de la capacité qu'ils ont de désarmer ceux qui pourraient contester leur pouvoir. Cette question, celle du maintien du pouvoir dans le temps, de sa solidité, de sa résistance, de son adaptabilité aussi, est au cœur du court essai, rédigé par Nicolas Machiavel, en 1513 sans doute, il y a 5 siècles, au cœur d'un temps troublé et violent. Essai dont tout le monde connaît le titre, Le Prince, peut-être moins les thèses et la qualité d'analyse. La force des questions de Machiavel a traversé les siècles, intactes, elles sont les nôtres. Merci Patrick Bouchon d'être avec nous aujourd'hui, puisque vous êtes l'éditeur de cette remarquable édition du Prince de Machiavel qui vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. C'est un des premiers événements qui vont célébrer le 5e centenaire de la rédaction du Prince.
Merci de m'accueillir. Éditeur, c'est beaucoup dire. Disons que je le préface.
Vous l'avez préfacé.
Et je le commande.
Et vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Panthéon-Sorbonne. C'est un livre tout à fait particulier, Le Prince. D'abord, le titre sur lequel il a été publié de manière posthume, plusieurs décennies après sa rédaction, semble indiquer un objet un peu différent que celui qu'on lui attribue aujourd'hui. Quelle était la perspective de Machiavel au moment où il a écrit ce texte?
Le premier texte, le premier document que nous ayons, que nous puissions lire de Machiavel parlant de son livre, c'est une lettre à un de ses amis, Francesco Vettori, le 15 décembre 1513, et il dit « Je t'envoie un petit opuscule où j'ai rassemblé mon expérience des choses modernes et ma continuelle lecture des antiques, et ce petit opuscule, je l'appellerai « De Principatibus », ça veut dire « Des principautés ». Ça dit déjà quelque chose de, je dirais, la valeur typologique de ce petit essai, qu'on va commencer à appeler « Le prince des principés » en italien plus tard, au moment où il sera publié, c'est-à-dire après la mort de Machiavel en 1527, mais très vite, le texte est mis à l'index, et donc de Machiavel, on ne connaîtra finalement que ce que l'anti-machiavélisme, c'est-à-dire ses adversaires les plus acharnés, voudront bien en dire.
Dans cette même lettre à Francesco Vettori, Machiavel dit, si je me souviens bien, à propos de cet essai, cette chose, on verrait que si on la lisait, on verrait donc que pendant les 15 ans où j'ai fait mon apprentissage dans le métier de l'État, je n'ai ni dormi, ni joué.
Ni joué. Oui, parce qu'à ce moment-là, effectivement, Machiavel se trouve en état d'oisiveté, mais c'est une oisiveté forcée. Il a été exilé du pouvoir, lui qui est un passionné de l'agir politique, de l'action, lui qui a été d'abord diplomate, lui qui a couru les routes de l'Europe, eh bien il se trouve brutalement sevré d'action politique et d'une certaine manière il écrit désormais, il n'a plus que cela, écrire, non plus pour parer les coups sont déjà venus, mais pour essayer de comprendre justement d'où il venait.
Alors parlons de son expérience et parlons de ses coups pendant presque une quinzaine d'années. Il a exercé des fonctions assez importantes au sein de la République de Florence qui venait juste d'être rétablie. Comment cette expérience politique s'est-elle achevée et quel enseignement en a-t-il gardé quant à la définition d'une perspective d'analyse d'études et peut-être quant à la volonté de transmettre un enseignement qui pourrait servir à ceux qui viendront après lui?
C'est-à-dire que si on voulait garder simplement en tête deux dates, la première serait 1498, c'est la mort de Savonarole. Et à ce moment-là, eh bien Machiavel, qui est un jeune en politique, il n'a que 29 ans, s'engouffre dans la brèche et croit le moment venu d'éprouver un engagement politique, car évidemment, on va s'en faire l'idée du cynisme, etc. Mais à ce moment-là, il est fondamentalement républicain. Et cette république, elle est restaurée. Alors c'est vrai qu'elle est restaurée à la mode vénitienne, c'est-à-dire un peu oligarchique, et avec quelqu'un qui s'appelle Piero Soderini, qui est, dont Machiavel est au fond un des fidèles, qui très vite va devenir gonfalonier de justice à vie. Donc c'est une république restaurée et très vite dévoyée. Mais enfin une république tout de même, qu'il va avec passion servir, dont il va servir, on dirait aujourd'hui, les affaires étrangères. Il est secrétaire de la chancellerie. Il n'a pas vocation, il n'a pas fonction d'ambassadeur, c'est important. Il la rend de légat, c'est-à-dire qu'il va voir, il regarde, il écoute, il observe et il écrit ce qu'il a vu. Il ne décide pas, mais il rend compte. Il y a donc une narrativité qui est à l'œuvre. Et on dit en règle générale qu'à ce moment-là, Machiavel n'a rien écrit. Oui, il n'a rien écrit de ce qu'on considère, nous, comme ses œuvres complètes, du point de vue littéraire. Mais il ne cesse d'écrire 2-3 lettres par jour. Et c'est au fond à ce feu de l'action politique qu'il va plus tard aiguiser le tranchant de sa langue si véloce à partir du moment où le coup d'État des Médicis en 1512, eh bien, l'écarte. Et il est d'ailleurs violemment écarté. Il est emprisonné, torturé, à deux doigts d'être condamné à mort. Il est finalement exilé. Et c'est de cet exil qu'il écrit effectivement à Francesco Vettori, qu'il a rassemblé son expérience dans un petit opuscule.
Le prince, ou du moins l'essai sous le titre où il a été rédigé initialement, est aussi l'expression d'une volonté de rupture par rapport à la catégorisation de l'analyse politique qui était absolument tout de même en cours à ce moment-là, avec les bons gouvernements, les gouvernements décadents, les facteurs d'évolution ou de mutation. Machiavel décide de parler de la chose même.
Et voilà, c'est la clé, c'est la véritable rupture. Ce que le prince n'est pas un traité de bon gouvernement, ce qu'il ne dira pas ce que c'est que gouverner bien et mal, ce qu'il va briser le miroir au prince. Qu'est-ce qu'un miroir au prince dans la tradition médiévale? C'est au fond un traité du bon gouvernement où l'on demande au prince d'adopter d'une certaine manière la morale commune, la morale, disons, du pastoralisme chrétien, où pour bien conduire les conduites des autres, il faut savoir se conduire soi-même et gouverner ses passions. Ça, c'est évidemment la grande tradition aristotélicienne, aristéto-stomiste plus précisément, de la littérature politique du régimène médiéval. Et c'est avec cela, pour des raisons politiques assez identifiables, disons, que Machiavel rompt. Et d'une certaine manière, le prince n'est pas un traité de gouvernement, c'est une réflexion sur ce que c'est que de se maintenir au pouvoir quand on l'a pris de force. C'est ce que Machiavel appelle la fortune. La fortune, pour lui, n'est évidemment plus la providence. Elle ressemble à nouveau à la fortuna romaine et elle est celle qu'on doit saisir. Et alors, il le dit de manière volontiers tantôt galante, tantôt grivoise. Il dit c'est une femme qu'il faut saisir par les cheveux comme il faut saisir l'occasion. Et savoir se saisir de l'occasion, ça s'appelle la virtus. Et là, évidemment, on est dans ce mot, dans cet intraduisible machiavélien qui est au cœur de la question de l'autonomisation d'une morale politique.
Les intentions de Machiavel, on peut l'imaginer, était celle de servir son pays, sans doute par cet ouvrage, d'enseigner à d'autres, comme il le dit d'ailleurs, le bien que la malignité des temps et la fortune m'ont empêché de réaliser. Mais en titre d'un ensemble de feuilles qui composent Le Prince, il a écrit cette notation à la signification tout à fait poignante, « post res perdita ». Oui. Comment faut-il l'interpréter?
Ça veut dire qu'il écrit après le désastre, ça veut dire qu'il écrit dans l'effet de souffle des guerres d'Italie, dont on doit bien comprendre ce qu'elle signifie. Ce n'est pas seulement la perte d'un État par rapport à un autre, la furia française des armées françaises de Charles VIII qui déferle sur la péninsule et qui ébranle le système politique italien à partir de 1494. Non, c'est l'ensemble d'un système politique qui s'effondre et avec lui, je dirais, les raisons morales et philosophique qui le soutenait, c'est-à-dire cette philosophie politique de l'humanisme civique puis princier. Donc, il écrit « Quand tout est perdu », ça veut dire à ce moment-là, la République n'est plus possible. Lui, l'ardent républicain, doit bien l'admettre. Il écrira plus tard, ailleurs, dans son discours sur la première décade de Tite-Live, « Ce qu'il faut penser de la République ». Là, on n'en est pas là, parce que vous le dites justement, il faut sauver le pays. Il y a une conscience qui est une conscience malheureuse, une conscience blessée de l'italianité qui, évidemment, à ce moment-là, se fait jour chez ces intellectuels sous le choc des guerres d'Italie. Et il faut donc confier son destin à un prince. Alors, peu importe qu'il fasse le bien ou le mal, il faut qu'il fasse bien ce qu'il a à faire à ce moment-là.
Le prince se conclut d'ailleurs sur un appel à libérer l'Italie des barbares.
Oui, de la puanteur des barbares.
De la puanteur des barbares. Alors revenons sur le caractère saisissant de cette mutation de toutes choses, de toutes les choses qu'est l'arrivée de Charles VIII, de l'armée française, en Italie en 1494. Donc il chasse les Médicis de Florence qui avaient régné sur la ville depuis presque une soixantaine d'années, et lesquelles d'ailleurs ne seront rétablies, comme vous l'avez rappelé, qu'à... En 1512. Vous avez rappelé la fin de cette époque de la République libre de Florence qui oblige à se projeter dans une toute autre représentation de ce qu'est le pouvoir politique et une toute autre réalité. La réflexion que Machiavel mène dans Le Prince est une réflexion qui touche à tous les aspects de ce qu'est l'exercice du pouvoir et le maintien du pouvoir. Il parle des armées, il parle de la morale, bien sûr, bien faire ce qu'on a à faire avant de pouvoir poser la question du bien et du mal, mais aussi qu'entend-il par cette expression qui revient constamment et qui semble être la toile de fond de la définition de la vertu, de la virtu, selon Machiavel, c'est-à-dire cette affinité, cette capacité à saisir le sens du temps, ce qu'il appelle la qualité du temps. Comment pourrait-on définir cette notion ?
Pour lui, je crois, et c'est là où, à mon avis, son rapport à la peinture, mais d'une manière générale à tous les arts visuels, et c'est pourquoi cette édition qui nous rassemble cerne le texte de Machiavel de représentation de ce trésor accumulé de la Renaissance italienne. Ce n'est pas simplement pour enjoliver le texte, mais c'est véritablement pour donner à voir, oui, la culture visuelle de Machiavel. Et donc, cette volonté qu'il a eue, d'une certaine manière, de saisir l'instant, fait de la politique un art du rythme. Voilà, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tout est dans le tempo, et c'est pourquoi il m'est agréable aussi de parler de la traduction de Jacqueline Risset qui rend compte si bien, parce qu'elle l'a fait pour le théâtre, de la vélocité de la langue de Machiavel, parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit bien du tempo, il s'agit du rythme. D'une certaine manière, ce que dit Machiavel au prince est très simple. Dès que vous êtes dans le tempo, vous réussissez. Vous réussissez à gouverner. Si vous perdez le rythme, vous perdez le pouvoir. Donc, c'est une question. Et là, il est certain que dire ceci, c'est aussi ramener le texte à, je dirais, une actualisation un petit peu facile, celle que on pourrait aujourd'hui, qui pourrait le rendre disponible à toute philosophie du management. Voilà, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que Machiavel a écrit Le Prince pour eux, c'est-à-dire une sorte de gouvernement des choses et des personnes. C'est beaucoup plus précis que ça. Au début, justement parce que c'est une typologie, parce qu'il écrit De Principatibus, il tente de catégoriser les styles de gouvernement. Mais voilà, le texte est là, il est... accueillant à toutes les lectures et à toutes les appropriations. Et beaucoup l'ont lu comme une sorte de philosophie intemporelle de la prise de décision. Et d'une certaine manière, il est question de brutalité et d'attente, de savoir retarder la décision pour soudain la brusquer. Tout cela, d'ailleurs... on y revient se résolvant dans la narrativité. Parce que Il ne faut pas se faire une fausse idée de ce texte. Ce n'est pas du tout un texte théorique. C'est un texte qui cavale. C'est un texte qui donne à sentir et à voir par des récits emballés de situations qui sont tantôt des situations contemporaines, c'est-à-dire de Machiavel comme historien du temps présent, et tantôt évidemment chez ce qu'il appelait ses chers Romains.
Donc Nietzsche était un bon lecteur et il avait une bonne oreille, lui qui appréciait le rythme de la marche ou de la danse. Par-delà bien et mal, à propos de Machiavel, il nous fait respirer l'air sec et subtil de Florence et ne peut se retenir d'exposer les questions les plus graves au rythme d'un indomptable allegrissimo, non sans prendre peut-être un malin plaisir d'artiste à oser ce contraste. Une pensée soutenue, difficile, dure, dangereuse et un rythme galopant d'une bonne humeur endiablée.
Oui, c'est un texte magnifique.
Tout est réussi. La gravité de ce dont parle Machiavel, puisque cela touche souvent au risque de mort, et puis à ce qui définit le destin des peuples, mais également cet extraordinaire rythme et fermeté de pensée qui fait que une formule ou un mot bien senti, au fond, résume avec une énergie extraordinaire la pensée la plus subtile. Alors, Machiavel a évidemment des références, il parle de ses contemporains, il parle des anciens dont il était nourri et qui lui servent de grille de lecture, d'apprentissage de la sensibilité et de la capacité d'analyse, mais il parle aussi des contemporains. Un homme se distingue entre tous. C'est César Borgia qui l'excite à plusieurs reprises, le Valentinois, le fils d'Alexandre. À propos de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Machiavel, le prince de Machiavel, comme possible apprentissage du management, Machiavel a un esprit tragique. En même temps, Machiavel ne cesse de rappeler à quel point la précarité des choses humaines a eu tôt fait de réduire cette extraordinaire dextérité à très peu de choses et puis à rien.
C'est ça, parce que finalement, l'aventure de César Borgia se termine assez misérablement. Machiavel, c'était assez, au moment donc de son action politique, entre 1502 et 1504 environ, avait été dépêché par la République de Florence pour courir au basque de celui qui était en train de se, avec vitesse, avec rapidité, avec audace, de se tailler un état à la mesure de son ambition dans l'Italie centrale, lui le fils du pape Alexandre Borgia. Et Machiavel l'a observé, l'a intrigué. Ce qui l'intriguait au fond dans César Borgia, c'était un usage très réglé de la violence politique. Et finalement, la question de la violence politique est la grande question de la morale philosophique de Machiavel. Mais c'est un homme qui l'a déçu. J'allais dire qui, heureusement, l'a déçu. Machiavel avait sans doute une capacité d'admiration très forte pour les héros de l'Antiquité. Il aurait souhaité découvrir son grand homme. Je dirais, heureusement pour nous, il ne l'a jamais découvert. Et donc, il a vécu dans une sorte de creux de l'histoire où le prince n'existe pas. Le prince qui peut justement libérer l'Italie de la puanteur des barbares ne viendra pas. Et il meurt en même temps que le sac de Rome en 1527. Donc, d'une certaine manière, il ne connaîtra pas ce grand prince italien qui pourrait, d'une certaine manière, réconcilier la force et son engagement républicain. Et c'est ce qui donne la tension, vous dites tragique, oui, en effet, de ce texte, et c'est ce qui le rend, je crois, disponible pour nous, pour toute compréhension élargie du politique.
Pour ce qui a trait à César Borgia, en tout cas, je citerai un extrait de du chapitre qui lui est concerné, puisqu'un chapitre en traite plus particulièrement. Ce seigneur est vraiment splendide et magnifique, et dans les armes il est si courageux qu'il n'est pas de grandes choses qui ne lui paraissent petites. Pour sa gloire et pour acquérir un état, il ne se repose jamais et ne considère ni effort ni danger. Il arrive quelque part, avant qu'on ait pu connaître son départ de là où il se trouvait. Il se fait aimer par ses soldats. Il a recruté les meilleurs hommes d'Italie. Ces choses le font victorieux et redoutable, à quoi s'ajoute une fortune perpétuelle. Et à la fin de son analyse, Machiavel ajoutera, il avait tout prévu, si pardonnez-moi de quitter la langue de Machiavel et de la paraphraser affreusement, Même ce qu'il ferait après la mort de son père, le pape Alexandre, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il tomberait malade et qu'il mourrait en quelques semaines.
Et oui, et oui. Et là, on a évidemment, je dirais, la butée de l'agir politique, c'est cette conception, là, pour le coup, désenchantée, complètement hasardeuse, que se fait Machiavel de la fortune. On ne peut pas dire que le prince soit... un livre où Dieu est absent, mais enfin, en tout cas, on peut dire que tout est organisé pour que son existence ne soit pas strictement indispensable à la marche du siècle tel que Machiavel en rend compte. Parce que, comme vous le dites justement, ce qu'il se donne comme objectif dans ce moment à la fois incertain et désespérant, ce n'est pas de rêver de monde meilleur, c'est de décrire avec exactitude, avec les mots du constat, au fond, ce que nous sommes en train de devenir. Voilà, c'est cela, c'est cette tâche qu'il assigne, je dirais, à l'intellectuel, qui est une tâche noble. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir ? Constatons, et constatons avec les mots exacts. Machiavel a ces formules que vous avez rappelées, la vérité effective de la chose. Non pas ces mots qui nous émerveillent et qui nous ensommeillent, mais la vérité effective de la chose, c'est-à-dire la chose en tant qu'elle produit des effets, et en tant qu'elle produit des effets sur chacun d'entre nous.
Et la nécessité de décrire et de penser ce que nous deviendrons, ça pose autant plus que sans doute que nul autant que lui n'a eu le sentiment de cette mutation des temps, de cette nouvelle époque dans laquelle les États modernes ou prémodernes étaient entrés. Machiavel donne des conseils, il est très attaché aux questions militaires, et, évidemment, et insiste beaucoup sur la nécessité des armées propres, à la place des armées mercenaires, dont il considère qu'elles ont joué un rôle tout à fait dommageable,
funeste
pour l'Italie de son temps. Lorsque on parle du prince et puis de Machiavel en général, c'est pour insister sur le fait que, au fond, il n'y a pas de qualité d'individu, il n'y a pas de qualité de l'action, il n'y a pas de norme morale. Le seul critère est celui de l'efficacité. On insiste aussi sur le fait que, avec Machiavel, il n'y a pas de juste ou de faux, de vérité ou de fausseté. Tout est affaire de raison d'État. Le plus fort imprime ses normes. Qu'en est-il de ces jugements ?
Raison d'État est, par exemple, raison d'État est une expression et une invention des anti-machiavéliens, de Botero, qui est un de ses plus farouches adversaires, jésuite piémontais, et d'une certaine manière, c'est tout contre Machiavel que va se penser véritablement au XVIe siècle, chez les philosophes de la souveraineté, la raison d'État. Bon, on peut ramener Machiavel, je dirais, à la formule la plus banale du machiavélisme, la fin justifie les moyens. Pourquoi Machiavel n'a pas écrit « La fin justifie les moyens » ? Pourquoi non seulement il ne l'a pas écrit, mais pourquoi il ne peut pas l'avoir écrit ? Il ne peut pas l'avoir écrit puisque la fin ne peut pas justifier les moyens, puisque d'une certaine manière, nous ne connaissons pas la fin. Donc nous ne pouvons pas justifier nos moyens par la fin, par le simple fait que, et en cela il est profondément anti-platonicien, les faits arrivent et d'une certaine manière, nous devons toujours décider dans l'aveuglement des conséquences de la décision. Ce qui ne veut pas dire que tout est permis.
Alors quelles sont ces normes résistantes lorsque l'efficacité immédiate viendrait les contredire ?
Vous l'avez suggéré, la liberté. Mais pas la liberté dont se rengorgent les humanistes italiens, cette libertas qui était au fond le mot d'ordre des néo-platoniciens autour de Marcille Ficin et qui masquait bien mal, je dirais, leurs intérêts politiques immédiats, mais le simple fait de bien vivre ensemble. Par exemple, Machiavel pense que le bon État, l'État bien gouverné, ne naît pas d'un législateur vertueux, mais du dissensus, de la dispute entre deux humeurs politiques, qui sont toujours là, dans toute situation. Les grands, dit-il, pensent qu'ils doivent dominer davantage, et les humbles résister à cette domination. Mais Machiavel ne met pas ces deux humeurs sur le même état de la balance. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. le droit de résistance.
Mais par ailleurs, il est clair que Machiavel reconnaît une moralité à l'efficacité.
Oui.
Ce qui n'est pas efficace ne peut pas être moral, aussi conforme soit-il au précepte du bon comportement. Comme il le dit, un prince doit prendre la voie du mal seulement si cela est nécessaire. Il devra rendre compte de cette nécessité. Je cite un extrait du chapitre 18 sur les 25 qu'oncle le prince, puisque nous arrivons à la fin de cet entretien. « De ce fait, un seigneur prudent ne peut ni ne doit observer sa foi s'il lui est nuisible de l'observer et s'y sont éteintes les raisons qu'il lui firent promettre. Si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas bon, mais parce qu'ils sont méchants et qu'ils ne l'observeraient pas à ton égard, toi, Étiam, tu n'as pas à l'observer avec eux et jamais à un prince ne manquèrent des raisons légitimes de colorer son inobservation. » Alors ça, ce n'est pas la traduction de Jacqueline Risset que j'ai citée, mais pardonnez-moi. Ce qui signifie que la première exigence morale, au fond, est la lucidité sur la réalité psychologique des hommes, la réalité morale, telle que l'entendait Machiavel, en tout cas, et sur la compréhension de ce que prescrit la circonstance et l'époque.
Absolument, vous venez de citer la traduction de Jean-Claude Zancarini et de Jean-Louis Fournel dans l'édition qui reste l'édition de référence au PUF en 2000, et qui est d'une certaine manière, cette traduction est indissociable du commentaire très précis, très érudit, très philologique qu'ils font du texte, et à ce moment précis du texte, eh bien, leur commentaire consiste à dire ceci: oui, le prince doit partir du principe que les hommes sont méchants parce que c'est un réquisite au fond du gouvernement, parce que il vaut mieux partir de ce principe-là que du principe adverse si on ne veut pas effectivement tomber dans la désillusion. Peut-être d'ailleurs que c'est plus profond que ça. Peut-être que la mélancolie de Machiavel ne considère pas seulement qu'il est juste de calculer que les hommes sont méchants, mais peut-être les pense-t-il réellement méchants. Et je serais tenté d'y voir, là, pour le coup, sur ce passage que vous avez cité, qui est effectivement un passage clé, un des moments où Machiavel s'engage. Ce n'est pas un texte où il dit ce qu'il pense. Ce n'est pas un texte d'engagement moral. C'est un texte qui veut produire un certain effet, y compris pour lui-même. Mais évidemment, au-delà de cette intention, je dirais, stratégique qu'il peut avoir, on peut identifier des passages où un peu de l'homme Machiavel s'exprime. Et ce que vous avez donné à entendre me semble un de ces passages.
Oui, on a l'impression qu'il est lui-même agité par une grande souffrance ou contrariété à devoir reconnaître qu'il faut s'obliger à considérer les choses ainsi.
Sans doute.
Ce que peut-être ni Frédéric II, auteur de l'anti-Machiavel, ni ceux qui, dans des temps plus récents, ont préfacé le prince, ou du moins ont voulu le rattacher à leur propre exercice politique, qu'il s'agisse de Mussolini ou de Berlusconi, n'ont compris. Alors espérons que en cette année de célébration du 5e centenaire du moment de rédaction du prince de Machiavel, la complexité de ces thèses et aussi ce qu'elles peuvent avoir à la fois de résolu dans la lucidité et de désespéré dans le constat puisse être découvert par nos auditeurs. Merci Patrick Bouchon pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Olivier Dupré qui était à la technique. Merci à Marie Dalquier. Machiavellica, Portugal, Rachidico dal Sénégal. Paranoia americana, bla 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 bla. Allahu Akbar ibn Wassez, c'est à qui qui sera plus balèze. Et la Torah dans tout ça, à ça non plus ça ne m'aura pas. Tout de suite, vous retrouverez Marie Richeux pour pas la peine de crier. Quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous. Machiavellica, Portugal, Rachidico dal Sénégal, paranoïaque américaine.